Alors, où est-ce que tu étais à l'école primaire et après au collège? Où est-ce que tu as fait ta scolarité?
Alors, j'étais à... J'ai fait hein, le collège, le lycée. Le lycée professionnel, le lycée technique, le lycée tertiaire. Et c'est au lycée tertiaire que j'ai eu mon bac. Mais bon, pour revenir un peu en arrière, donc disons que j'étais jusqu'au collège, mes études se sont bien passées. J'étais un élève assez studieux, bon, pas spécialement surdoué, mais pas spécialement sous-doué non plus. Quand je suis arrivé au lycée, par contre, bon, j'ai commencé à faire connaissance avec des gens un peu plus branchés, peut-être. Ça, c'était ma première seconde au lycée. Donc, même si c'était un lycée un peu bourgeois, finalement, les bourgeois sont autant déchaînés souvent que les pauvres ou que les gens de banlieue, quoi. Donc je me suis retrouvé dans ce lycée, une classe, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie, j'étais pas très motivé, j'avais jamais été motivé pour quoi que ce soit, donc je laissais les choses courir. Et en fait, dans ce lycée, j'ai fait des connaissances qui allaient dans le sens où justement on s'occupe pas trop de l'école et on s'occupe plutôt de la vie en dehors de l'école. Donc c'est pendant ces années-là que j'ai commencé à fumer mes premières cigarettes. Que j'ai pris peut-être mes premières cuites, des choses comme ça, bon, des choses de gamin, encore c'était en seconde, donc c'est pas exagéré. Donc c'était une seconde de détermination, comme on appelle ça. Et la seconde s'est relativement mal passée. On m'a proposé soit de redoubler, soit de redoubler, mais dans une section technique. Et justement, le technique, j'avais rien contre. Et je voulais partir en pension. En fait, c'était une envie que j'avais d'essayer ce que c'était.
Pourquoi tu voulais partir en pension?
C'était pour prendre un peu de distance avec mes parents, certainement. Et puis, justement, pour encore aller plus loin dans la liberté que j'avais connue à partir du lycée, quoi. Et donc, on m'a proposé d'aller en pension au lycée. Donc j'ai fait un an là-bas, c'est une année qui s'est très bien passée. J'étais passé d'une classe de bourgeois relativement éduqués à une classe de cancres complètement naze, disons. Et donc j'étais le meilleur, tout allait bien, j'étais le meilleur en faisant l'idiot. C'est là-bas que j'ai commencé à faire plus, à développer encore un peu plus les conneries que j'avais commencé en seconde, ma première seconde. Donc j'étais en seconde TSA au lycée. J'ai travaillé sur des machines-outils, fraiseuses, tours à bois, travail de dessin industriel, des choses comme ça. Ça se passait très bien, mais au bout d'un an, j'avais comme projet, finalement, vu que j'étais le meilleur dans cette classe-là, d'aller dans la crème des crèmes chez les meilleurs des meilleurs, c'est-à-dire en première E. Première E, c'est comme une première S, mais avec en plus des matières techniques, disons du dessin industriel encore, des choses comme ça. Donc, mais ça n'existait pas là où j'étais, donc je suis revenu au lycée technique. Là, j'ai fait ma première E, qui s'est très mal passée. J'ai un peu craqué dans ma tête. Je me suis mis à aimer le français, quoi. C'est pour dire à quel point j'étais complètement perturbé et du fait que j'étais depuis 2 ans dans le technique. Je me suis pris de passion pour le français. J'écrivais des poèmes à mes profs. J'écrivais des poèmes chez moi, je lisais 4 bouquins par semaine. J'ai préparé une sorte de réorientation comme ça. Et donc, à la fin de ma première E, catastrophique, avec aux alentours de 6 de moyenne, je suis repassé dans une filière traditionnelle en A1. Donc A1, à l'époque, c'était lettres, philosophie et mathématiques. En fait, c'était dans le même lycée, mais dans le bâtiment d'en face, donc je n'ai pas beaucoup bougé cette fois-là. Je me suis retrouvé en première A, ça s'est bien passé, bon, sans plus, sans... J'avais le bac de français, je l'ai passé avec un peu de difficulté, parce que bon, le français, on aime ça quand on n'y est pas, mais quand on y est, on n'aime plus ça, finalement. Donc j'ai passé mon bac de français, j'ai eu une petite moyenne, bon, c'était pas important, vu que je passais en terminale, c'était l'essentiel pour moi. Je me suis retrouvé en terminale, j'ai fait connaissance avec des gens intéressants de nouveau, donc j'ai recommencé un peu à faire un peu plus la fête que ce qu'il aurait fallu. Mais j'ai eu mon bac, d'ailleurs j'étais le seul de tout mon groupe de copains à l'avoir eu cette année-là. Et donc mon bac avec 10 dans toutes les matières, ma foi, moyen en tout, mais bon en rien. Donc j'avais le choix de ma vie qui s'offrait à moi. Et j'ai décidé de partir à la fac à Grenoble.
Et pourquoi tu es allé à Grenoble? Il y a une université à Valence aussi.
Ouais, mais ça faisait toujours partie de mes envies de m'éloigner le plus possible de chez moi, de changer de vie, une sorte d'instabilité structurelle à mon être. Donc je suis parti à Grenoble et en plus donc je me suis inscrit en sociologie parce que la seule chose qui m'avait passionné peut-être en terminale à Valence c'était la philosophie. Donc bon, je me voyais mal faire une fac de philosophie parce que c'est un peu, comment on dit, enculer les mouches, quoi. Mais en sociologie, c'est un peu plus pratique, un peu plus lié à la société. Donc je voulais me renseigner un peu, je voulais comprendre le monde. Je lisais un peu les journaux, mais je ne comprenais pas encore tout. Donc je me suis inscrit en sociologie, j'ai débarqué à Grenoble en chambre universitaire, seul, comme beaucoup d'étudiants. Vraiment aucune connaissance, tous mes copains qui étaient restés. Et... Donc je me suis retrouvé dans cette chambrue, à pas savoir trop ce que je faisais là. J'ai fait ma première année de DEUG en chambre universitaire, on a 12 mètres carrés, donc j'ai passé beaucoup de temps dehors justement, parce que c'était assez insupportable de rester dans ma chambre. Donc j'ai pas été vraiment très bon les 2 premières années de Doug. Mais donc, la première année a été. J'ai fait un passage à minima. La deuxième année, j'ai eu la deuxième moitié qui me manquait. Et puis à ce moment-là, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Et ça s'est beaucoup mieux passé à partir de ce moment-là. Sans savoir vraiment pourquoi, mais bon, disons que je l'ai rencontré pendant ma deuxième année de deuil, où j'étais encore pas très 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 fort, pas très intéressé. Surtout la sociologie, on se demande un peu ce qu'on fait des fois, où on va, c'est pas très applicable dans la pratique, quoi. J'ai rencontré ma copine, on est parti en vacances, on a fait un grand voyage au Maroc cette année-là. Et au retour, je partais fin août au Maroc, on revenait début septembre. Bon, genre, on est revenu le 2 septembre et le 4 septembre, j'avais mes examens de rattrapage, parce que j'étais chaque année au rattrapage, forcément, vu ce que je faisais. Et là, miracle, ça s'est bien passé. J'ai eu des super notes. Quoi, des super notes, j'irai peut-être pas jusque-là, mais j'ai eu des bonnes notes. Je suis passé en année supérieure. Et à partir de ce moment-là, tout s'est bien passé. J'ai eu mes examens à chaque fois en juin, à première session.
Tu as continué en licence de sociologie?
Non, justement, j'ai fini mon DEUG, ça s'est bien passé. Mais vu que ça commençait à se passer bien, je me disais finalement, t'as peut-être plus besoin d'arrêter tes études et d'aller à l'usine. Tu peux peut-être continuer à faire quelque chose. Et si je continuais, je voulais pas faire de la sociologie parce que continuer dans la sociologie, bon, les débouchés, c'est être prof de sociologie ou travailler pour un institut de sondage ou des choses pas très finalement intéressantes, quoi. Et bon, ça fait toujours partie de mon envie de tout le temps changer de matière, changer de lieu, changer de. Donc là, j'ai changé de fac. J'ai passé un concours. Ça a été un peu un coup de tête, quoi. J'ai passé un concours pour entrer à l'IUP, Information Communication de Stendhal, à Échirolles. Donc j'ai envoyé un dossier. Il y a eu une première sélection où j'ai été pris. Après, j'ai fait une épreuve de culture générale qui s'est bien passée aussi. Une épreuve de créativité qui s'est moins bien passée, ma foi. Et résultat final, j'étais 25e sur la liste et ils prenaient que les 20 premiers. Donc j'étais un peu au pied du mur, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Mais coup de chance, en insistant un peu, en allant au premier cours, j'ai réussi à grappiller des places, en fait. J'ai réussi à faire abandonner celui qui était 24e et qui était pris finalement avec les désistements. Et j'ai été pris in extremis le troisième jour, alors que ça avait déjà tout commencé. Donc voilà, j'ai commencé cet IUP. Là, je suis. Et ça a continué sur la même lancée, quoi, sans savoir trop pourquoi. Maintenant, tout marche. Bon, les examens sont passés en juin, les notes sont acceptables. Donc, au bout de 3 ans d'IUP, on rentre à bac plus 1. Je suis en maîtrise d'IUP, information communication. En licence, j'avais une option audiovisuel et multimédia. En maîtrise, j'ai l'option multimédia, tout simplement. C'est donc un petit peu professionnalisé. Donc déjà, les intervenants dans les cours sont beaucoup de professionnels, de gens qui connaissent un peu plus le métier que les profs qui sont là à vie de toute façon et qui peuvent être compétents ou pas compétents, c'est la même chose pour eux. Donc d'une part, intervention de professionnels dans les cours, ce qui rend plus attrayant l'apprentissage. Et deuxièmement, des stages. Donc en première année, un petit stage d'observation dans un service communication à Valence. Ce qui n'était pas très intéressant, mais c'était un petit stage d'un mois où on devait juste rendre un petit rapport d'observation à la fin. Deuxième année, j'ai fait un stage déjà, c'était largement plus intéressant. J'ai créé une sous-partie du site internet de Stendhal, une sous-partie consacrée à une chaire UNESCO en sciences de la communication, présente à Stendhal depuis, je crois, 96, quelque chose comme ça. Donc là, c'était tout le travail de conception, de savoir ce que l'UNESCO attendait de ce site. Pourquoi, comment, donc j'ai conçu le site, je l'ai réalisé avec les moyens que j'avais en tant qu'étudiant de deuxième année. J'avais pas énormément de connaissances, énormément de moyens, mais bon, j'ai fait une petite maquette acceptable. J'ai rendu, ça s'est bien passé. J'ai eu mon année une fois de plus, donc cette année je suis en maîtrise. Et par contre, la maîtrise, là, le stage fait en tout doit faire 4 mois si on cumule les jours. Et c'est un stage complètement professionnel cette fois. C'est l'université qui prête ses étudiants pour faire des projets vraiment professionnels, quoi. Si c'était pas moi qui l'avais fait, ce projet, ça serait une boîte de communication, une boîte de multimédia, comme on en trouve d'autres, mais bon, ça serait moins compétitif, bien sûr. Mais donc cette année, j'ai attaqué mon stage d'ailleurs ce matin. Je travaille pour la. Alors, c'est l'Institut de... sur. Institut sur. Et c'est un institut un peu pionnier en France. C'est hérité de Carignon, qui était passionné par ces systèmes et qui était en même temps. Qui s'occupait de Grenoble et qui était ministre à cette époque-là. Donc il en a profité pour faire de Grenoble un peu un pilote là-dessus. Il a créé cet institut et que c'était une association au début, mais bon, il trouvait que ça faisait pas assez professionnel, pas assez comment dire, pas assez pas honnête quoi. Si, quand on parle d'association, on a un peu l'idée dans le fond que c'est contrôlé par l'État. Donc donner des informations, par exemple sur le nucléaire, en étant contrôlé par l'État, c'est pas crédible parce qu'on a le public a l'impression qu'on va toujours atténuer les problèmes et qu'on va toujours dire que tout se passe bien. Donc ils ont pris le nom d'institut, mais bon finalement c'est toujours pareil. Ils sont fortement reliés à l'État quoi. Donc j'ai attaqué cette commande là ce matin. Ça se passe pas mal pour le moment. On a fait un peu connaissance avec l'entreprise, on a vu un peu tous les documents disponibles sur le sujet. Et ça va certainement être une année très intéressante pour moi. Même si en même temps que j'ai ce gros travail à faire pour eux, j'ai malgré tout mes examens de cours normaux, quoi. Mais bon, c'est ma dernière année, donc j'espère bien que ça va bien se passer.
Je sais qu'une fois, tu m'avais dit que tu étais assez pressée de rentrer dans la vie active finalement. Donc ça m'avait étonnée parce que la vie active, c'est... Enfin, ça fait peur de rentrer dans la vie active, de quitter l'université. Donc comment ça se fait que tu sois...
Disons que la vie active, c'est vrai que ça fait peur, ça me fait peur à moi aussi. Mais le problème quand on est étudiant, c'est un problème d'argent. Moi qui ai fait pas mal de branches différentes, qui ai pas mal redoublé dans mes études, je me retrouve en maîtrise à 25 ans, qui est pas l'âge vraiment normal pour être en maîtrise. Bon, même s'il n'y a pas l'âge normal, parce qu'il y a des gens plus âgés qui rentrent après un retour de. En situation professionnelle, on peut revenir faire des études, etc. Mais bon, depuis le temps que je fais des études, depuis le temps, je commence un peu à être là de tout ça. Pour payer mes études, je travaille à côté, je suis surveillant. Et ça fait 4 ans, donc bon, je suis surveillant à mi-temps, je gagne 2 800 francs par mois. Mais au fur et à mesure que ça avance, les besoins en argent se font sentir, surtout dans une filière de communication où il faut avoir les derniers ordinateurs, les derniers logiciels. Et comme j'aime toujours autant faire la fête aussi, je me retrouve à découvert systématiquement en fin de mois et mon envie d'entrer dans la vie active, en fait, c'est surtout à cause de l'argent. Parce que si on me payait pour continuer à faire des études, ma foi, je continuerai à faire des études, mais on ne me paye pas pour faire ça, on ne me paye pas assez du moins. Et donc j'ai une grande envie de, d'une part, gagner de l'argent pour un peu avancer mes projets de vie. À 25 ans, commencer à savoir si je veux acheter une maison ou... Moi qui aime la campagne, qui aime un peu, qui aime un peu bricoler, bon, ça serait peut-être un petit peu le moment ou jamais, quoi. À 26 ans, je vais arriver sinon à 30 ans, il va falloir que je m'achète une baraque. À 40 ans, j'aurai ma baraque, je pourrai faire un enfant. À 50 ans, voilà, quoi, ça sera foutu.
Donc tu es pressé de réaliser tous tes projets.
Je suis pressé d'entrer dans la vie active. Gagner de l'argent et je suis pressé de faire un métier intéressant. Bon, ça, je suis sûr de rien, mais j'ai envie d'essayer de me vendre et dans des métiers qui me passionnent. Parce que finalement, dans la vie, si on y réfléchit, très peu de monde fait le travail qu'il avait envie de faire au départ. On s'adapte après, on se dit que c'est le travail qu'on. qu'on avait envie et que c'est un travail intéressant, etc. Mais finalement, faire vraiment ce qu'on a envie depuis qu'on est tout petit, faire dans son travail, faire que son travail applique ses passions, c'est quelque chose de très rare. Alors bon, moi je suis passionné d'informatique, d'une part. Bon, je le suis essentiellement depuis que je suis à l'IUP, mais bon, j'avais toujours un petit peu cette envie de me mettre à cet outil. Et je suis passionné de musique. Donc, d'une part, musique et informatique se marient très bien. Maintenant, tous les outils pour la musique sont sur informatique. Et puis, dans la musique, donc, il y a plein de débouchés qui pourraient s'offrir à moi avec cette formation. Pas spécialement pour être musicien ou quoi que ce soit dans le style, mais pour être ingénieur du son, pour créer des CD-ROM ou des sites internet pour des chanteurs, pour des musiciens qui voudraient utiliser ce nouveau média et qui ne savent pas forcément comment y faire. Donc moi, maintenant, je commence à avoir des compétences assez poussées là-dessus. Gérer le son, gérer l'image animée, gérer le texte, gérer des liens. Et donc je peux commencer vraiment à faire des choses intéressantes pour les musiciens qui pourraient donner un nouvel élan à leur carrière. Je pense, en parlant de ça, je pense à David Bowie qui est complètement rentré dans le multimédia et qui sort chaque année un CD-ROM minimum, qui est passionné par ça parce que ça ouvre des possibilités inimaginables pour un musicien classique, quoi. Avec un ordinateur, on peut vraiment tout faire, même en 2 heures de temps, quelqu'un qui peut investir 50 000 francs dans du matériel informatique, peut-être pas 2 heures de temps, mais en 8 jours de temps, il peut créer son propre CD, le graver, le distribuer bon, à petite échelle, mais bon, il peut apporter des CD à la Fnac, ils les vendent, ils proposent des services comme ça, ils ont un bac sur les musiques régionales. Et bon, même si l'ordinateur sert essentiellement pour faire de la musique technologique, comme on appelle ça, ou disons de la techno, pour parler un peu plus jeune. On peut vraiment tout faire, on peut arranger des morceaux, tous les morceaux qu'on entend, un morceau de classique, un morceau de pop ou de rock ou de quoi que ce soit. Il y a des outils qui permettent de faire une maquette vraiment professionnelle avec très très peu de moyens. Et c'est pour ça aussi qu'en ce moment, un peu, on voit beaucoup de groupes indépendants qui sont en train d'émerger. Parce que ils ont moyen pour très peu d'argent de louer un studio d'enregistrement et après de se graver une cinquantaine de CD pour se faire connaître. Et s'ils commencent à se faire reconnaître, ils peuvent en regraver un peu plus. Et finalement, comme ça, on arrive à des groupes qui commencent à être très connus, quoi. Bon, il y a l'exemple pour Grenoble de Sinsémilla, de Gnawa Diffusion, de Owai, de Celsius qui ont suivi cette route et qui finalement commencent à dépasser le niveau local, commencent à faire des concerts à Lyon. Bon, je parle pas pour Gnawa et pour Sinsémilla parce qu'eux ils sont déjà au niveau national depuis quelque temps. Mais bon, c'est un outil très pratique et plein de jeunes s'engouffrent dans la brèche et il va y avoir du boulot. Et bon, vu que c'est ce qui m'intéresse, ça peut être parfait pour un boulot pour moi en sortant. Donc ça redouble encore l'envie que j'ai d'arrêter mes études et enfin de me lancer dans des projets intéressants, de nouer des liens avec les musiciens de la région.
Donc toi, en fait, t'aimerais lier multimédia et musique, mais est-ce que finalement, c'est pas un peu utopique? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a des débouchés? C'est peut-être un peu restreint.
C'est très restreint, mais je veux pas spécialement lier multimédia et musique. Disons que ça constitue peut-être mon rêve d'enfant, que j'arriverai certainement pas à appliquer, ou peut-être j'y arriverai. J'ai peut-être quand même pas mal de chances d'y arriver. Bon, c'est mon rêve d'enfant, mais après, tout travail dans le multimédia m'intéresse aussi, toute création, la création de sites ou de CD-ROM pédagogiques pour les enfants, ça c'est un domaine aussi qui m'intéresse relativement. Et puis tout ce qui peut un peu faire appel à ma créativité et un peu, un peu sortir de l'ordinaire, quoi. J'aime ce qui sort de l'ordinaire, être un peu fou, quoi, faire des choses qui sont pas, qui ont pas été faites encore. Et ça, il y a vraiment beaucoup de débouchés dans le multimédia où on peut justement. Où les gens sont intéressés par des gens comme ça, ouverts à plusieurs domaines, la musique, l'art, la littérature, et qui puissent développer des projets un peu nouveaux. Parce que la tendance un peu du multimédia à l'heure actuelle, c'est de sortir des pages de texte à l'affilée, mettre quelques liens, mais sans vraiment utiliser toutes les capacités du multimédia qui sont devenues énormes. Ouais, je repense au traitement du son. Sur Internet, il n'y a quasiment aucun son sur les sites, alors que la technologie existe maintenant. Et le son est une des parties les plus primordiales pour faire un bon site. On voit ça pour des CD-ROM, beaucoup. Où la bande son, souvent, est le déclencheur finalement du succès de quelque chose. Je ne sais plus le nom, il y a 5 ans environ, un CD-ROM qui était sorti, un jeu de plateau, qui avait rien de plus que les autres, mais dont la bande son était très très bien faite. Et ce jeu a eu un succès phénoménal grâce à cette bande son parce qu'on pouvait vraiment s'y croire. Toutes les possibilités étaient utilisées, la Dolby, tous les effets, c'était une bande son très très élaborée et ça a créé un engouement des consommateurs. Ça a été un succès phénoménal. On en parle encore aujourd'hui en tant que référence. Alors que ça fait 5 ans, quoi. Et le multimédia, tout ce qu'il y a 5 ans, c'est déjà has been.